Tiré bien sûr de la chronique. Donc, chaque génération de journalistes traîne ses traumatismes, ses accidents de parcours qui vaccinent à vie. Pour la mienne, c'est la victoire des Khmer Rouges au Cambodge en 1975. La presse française la salua comme une libération, avant de découvrir que les nouveaux maîtres du pays allaient commettre un génocide. Un aveuglement sur la nature d'un mouvement de libération forcément pur puisqu'il luttait contre l'impérialisme. Le cinéaste Hrithika Phan a consacré sa vie à décortiquer cette tragédie. Dans « Rendez-vous avec Pol Pot » de 2024, il montre, j'ai perdu ma ligne du coup.
C'est pour qu'on t'entende mieux.
Oui. C'est ça. Il montre comment le régime des Khmer Rouges a manipulé ses sympathisants occidentaux et la preuve jusqu'à ce que la vérité éclate. Et la presse, pardon. J'en ai conclu qu'à la manière dont certains mouvements armés libèrent leur peuple pèse lourdement sur leur façon de gouverner après, le plus souvent, aux dépens des droits humains. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à cette leçon de l'histoire en lisant le rapport d'Amnesty International consacré au Hamas palestinien, publié le 11 décembre dernier. Il contient des accusations graves sur le 7 octobre et ses suites. Le mouvement islamiste et sa branche militaire Ezzedine El-Qassam y sont accusés de crimes contre l'humanité lors de l'attaque de populations civiles en Israël ce jour-là, puis dans le traitement des otages détenus dans la bande de Gaza. Il va de soi, mais ça va mieux en le disant, que les accusations portées contre le Hamas et les autres groupes armés n'exonèrent en rien l'État d'Israël et son armée de ce qu'ils ont commis durant les deux années suivantes contre les civils palestiniens. Les crimes des uns n'effacent pas les crimes des autres. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, ce sont des vies arrachées et des principes fondamentaux bafoués. J'ai eu récemment une conversation dérangeante avec un dirigeant politique proche-oriental qui défendait le 7 octobre au nom des crimes perpétués par l'autre côté. Mais je n'ai pas attendu le 7 octobre pour me faire une opinion sur le Hamas. Lorsque j'étais correspondant à Jérusalem, au moment des accords israélo-palestiniens d'Oslo, dans les années 1990, j'ai été témoin des attentats kamikazes commis par le mouvement islamiste pour saboter toute possibilité de compromis, y compris à la veille des élections israéliennes de 1996, faisant élire pour la première fois comme Premier ministre un certain Benyamin Netanyahou. Ce choix de la politique du pire rejoint celui des extrémistes israéliens, les assassins d'Isaac Rabin en 1995 et leurs successeurs membres de coalition sur pouvoir aujourd'hui. Le rapport d'Amnesty International constitue une boussole morale qui permet de rester lucide.
Donc, merci Dominique pour un petit commentaire parce que
beaucoup de gens qui
nous écoutent effectivement ne se rappellent pas bien le génocide des Khmer Rouges.
Je pense qu'il y a pas mal de jeunes quand même aussi.
À la fin des années 70, moi je m'en souviens effectivement, j'étais pas très vieux mais je m'en rappelle bien. Et donc effectivement, il a été Amnesty International à l'époque, qui avait moins de moyens que maintenant, et même encore à l'heure actuelle, on ne peut pas être partout, bien évidemment, il faut faire des choix, mais c'était encore plus vrai à l'époque, n'avait pas du tout eu les moyens d'enquêter justement sur ce qui se passait au Cambodge avec sous le régime des Khmer Rouges. Et donc, en fait, il n'y a eu aucun rapport de publié pendant ce génocide. Amnesty International, quand la vérité a été connue, a reconnu qu'elle avait manqué, effectivement, une enquête, mais que c'était faute de moyens financiers pour
de moyens financiers et de moyens d'y aller. C'était verrouillé quand même aussi.
Tout à fait. Et ce qui n'a pas empêché après, et je l'ai encore entendu récemment dans un média, ce qui m'a particulièrement énervé. C'est qu'en fait, il a été dit après, la preuve qu'Amnesty International n'est pas objective, elle a défendu le régime des Khmer Rouges. C'est parfaitement faux. Amnesty n'a jamais défendu le régime des Khmer Rouges, bien au contraire, elle n'a simplement pas pu enquêter sur ce qui se passait en temps utile. Voilà. Et donc, effectivement, ce genre de procès d'intention qui est encore répété maintenant est tout à fait insupportable. Et je crois qu'Edith voulait vous parler,
mais je ne sais plus de quoi. On a dit qu'on m'était... Je parlais après toi, parce que toi, tu parlais, Dominique, effectivement de problématiques au niveau des Khmer Rouges, de ne pas avoir su l'information, et après que cette information soit déformée par les médias, comme malheureusement on a pas mal de situations tout de suite, ou des fake news. Et ben, donc moi j'avais décidé de vous faire part de la situation de Francesca Albanese.
Ah oui, c'est ça.
Alors, Francesca Albanese, qui est-elle? Pour ceux qui ne suivent pas trop les actualités, c'est la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Donc, il y a eu un morceau d'un discours qu'elle a fait, et il y a eu un morceau qui a été chanté, et il y a eu carrément des réactions. Mais alors, des réactions, on pourrait dire, bon, voilà, c'est encore partisan et tout. Ben non, c'est quand même des responsables, des ministres en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie et en Tchéquie, qui ont attaqué la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, en se basant sur une vidéo délibérément tronquée afin de déformer et de mal interpréter gravement ses propos, comme le montre clairement le visionnage de son intégralité du discours original, ce qu'a déclaré Agnès Kalmar, la secrétaire générale d'Amnesty, dont tu parlais tout à l'heure, Dominique. Alors, elle demande, donc Amnesty, et par la bouche d'Agnès Kalmar, que les ministres qui ont diffusé cette désinformation doivent faire plus que simplement supprimer leurs commentaires sur les réseaux sociaux, comme certains l'ont fait. Ils doivent présenter des excuses publiquement et rétracter toute demande de démission de Francesca Albanese. Leur gouvernement doit également enquêter sur la manière dont cette désinformation s'est produite, afin d'éviter que de telles situations se reproduisent. Car l'engagement de la rapporteuse spéciale à enquêter de manière objective sur les faits, en se basant sur des preuves concrètes, et à appliquer le droit international, a été essentiel pour dénoncer les violations persistantes des droits des Palestiniens et des Palestiniennes par Israël, et la complicité de tierces parties. Les appels qui ont été lancés pour obtenir cette démission doivent être catégoriquement rejetés. Ils représentent les dernières offensives en date parmi une série d'attaques personnelles et des tentatives alarmantes visant à la réduire au silence. Cette campagne visant à la discréditer est un écran de fumée qui sert à détourner l'attention du génocide perpétré par Israël à Gaza, de son système d'apartheid et de son occupation illégale du territoire palestinien occupé. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que malgré une diminution des attaques aériennes israéliennes et quelques améliorations limitées dans la circulation transfrontalière des biens et des personnes depuis la trêve d'octobre 2025, aucun changement significatif n'a été observé dans les conditions infligées par Israël aux Palestiniens et Palestiniennes à Gaza, et rien n'indique que les intentions d'Israël aient changé. Le génocide se poursuit. Les opérations militaires israéliennes sur la bande de Gaza se sont poursuivies tant depuis octobre, 590 Palestiniens, et le nombre estimé des Palestiniens et Palestiniennes tués depuis octobre 2023 s'élève actuellement à plus de 72 000. Israël a également considérablement intensifié les bouclages cruels et illégaux qu'il impose à Gaza depuis plus de 18 ans. Les opérations militaires israéliennes visant à créer concrètement une zone interdite de près de 60% de la bande de Gaza ont encore aggravé la situation. Et en Cisjordanie occupée, notamment à Jérusalem-Est annexée illégalement, les attaques menées par les forces israéliennes et les colons soutenus par l'État israélien ont tué plus de 1100 Palestiniens et Palestiniennes et ont déplacé des dizaines de milliers depuis octobre 2023. Et là, ça s'est accentué aussi quand on entend la Cisjordanie, j'en rajoute, sur la Cisjordanie, avec vraiment des conditions absolument intolérables. Cette justice scandaleuse persiste alors que la Cour internationale de justice a plusieurs reprises ordonné à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les actes génocidaires. Et malgré son avis consultatif indiquant que l'occupation israélienne est illégale et doit prendre fin dès que possible. Rappelons également que la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre et l'ancien ministre de la Défense israélienne pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Voilà, donc l'article est encore plus long, mais je crois que je vais m'arrêter là, qui parle vraiment de la situation d'Israël. Et là, c'était vraiment un épiphénomène de tomber sur cette femme, en plus très courageuse, et en plus dénonçant le discours. Alors, je vais juste vous donner le petit morceau de discours qui a posé fake. Donc, c'est le 7 février dernier, Francesca Albanese s'exprimer lors d'un forum organisé à Doha par Al Jazeera. Elle a déclaré « Au lieu d'arrêter Israël, la majeure partie du monde l'a armée, a fourni à Israël des excuses politiques, un refuge politique, un soutien économique et financier. » Trois petits points. Nous ne contrôlons pas d'importantes quantités de capitaux financiers, d'algorithmes et d'armes. Nous voyons aujourd'hui que nous, l'humanité, nous avons un ennemi commun et que les libertés, le respect des libertés fondamentales constituent la dernière voie pacifique, le dernier outil pacifique dont nous disposons pour retrouver notre liberté. Alors, ces commentaires ont été interprétés à tort comme indiquant qu'Israël était cet ennemi commun. Francesca Albanese a rejeté ses accusations, a clarifié ses propos sur les réseaux sociaux en expliquant que l'ennemi commun de l'humanité est le système qui a permis le génocide en Palestine, notamment les capitaux financiers qui le financent, les algorithmes qui le masquent et les armes qui le rendent possible. Voilà. Donc, quand même, notre ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration le 11 février en demandant que la rapporteuse spéciale doit démissionner.
Bah oui, bien sûr, effectivement.
Donc, lui, il n'a pas tout bien lu, quoi. Il y avait aussi les ministres allemands, autrichiens, italiens, mais eux, ils sont un peu. Il y en a qui sont excusés après. Donc, il faut remettre les choses à l'heure et les phrases dans le bon sens.
Tu as tout à fait raison, effectivement, de rétablir la vérité. C'est fondamental de dénoncer les fake news. Et je suppose même que cette Francesca Albanese a dû être taxée par certains. Là, je ne l'ai pas lu, mais ça va être très facile. D'antisémitisme aussi, parce qu'effectivement, quand on attaque Israël, on devient antisémite, bien sûr.
Voilà.
Alors et que puis, ça n'a strictement rien à voir.
Bon, comme je vois, j'ai encore 2-3 minutes, je vous mets juste un tout petit morceau. Alors, donc, c'est toujours Agnès Calmar qui nous explique. Nous traversons une période critique pour l'humanité. Le droit international et l'institution internationale de protection des droits humains étant attaquée comme jamais auparavant, l'utilisation qui est faite de la désinformation pour les délégitimer davantage encore représente une grave menace pour les droits humains et l'état de droit lui-même. Voilà.
Ok, ben on va passer la deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
Tu cherches la liberté et les dollars, tu finiras derrière des barres. La vérité pour les peaux noires. Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? L'histoire n'est pas si belle que tu crois. L'eau froide t'attend, la pluie t'attend. Ni famille, ni amis, ni personne avec toi. La rue t'attend, la peur t'attend. La fraternité n'est pas celle que tu crois. Le racisme t'attend, la misère t'attend. Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Forcé, t'es là. fuyons, qui va mener la lutte à notre place. Pourquoi vous fuyez, nous fuyons, qui va mener la lutte à notre place. Tu vas chercher l'or, mais l'or est sous tes pieds. Africa, le trésor que tu as délaissé. Pourquoi tu fuis? Là-bas c'est pas le paradis. Tu seras juste l'esclave de les paradis. Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez? Nous fuyons. Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place?
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, Amnesty International. J'étais un peu surpris par l'arrêt de la musique tout d'un coup. Et donc voilà pour la suite et la fin de notre émission sur la promotion et la défense des droits humains. On vient d'entendre Tikenja Fakoli, un morceau qui s'appelle « Pourquoi nous fuyons ?» et il suffit d'écouter les paroles pour savoir de quoi il veut parler. Voilà. On a une autre bonne nouvelle. On avait dit qu'on allait faire des bonnes nouvelles aussi dans nos émissions. C'est indispensable. Et c'est Dominique qui doit vous en parler si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Donc, vous vous souvenez des images choquantes montrant des milliers de personnes arrêtées au Royaume-Uni pour avoir soutenu Palestine Action. Le 13 février, la justice britannique a tranché. Interdire Palestine Action et la qualifier comme une organisation terroriste était illégal. C'est un immense soulagement pour toutes les personnes arrêtées et une victoire essentielle pour la défense du droit de manifester. Une démocratie saine repose sur la capacité des citoyens et citoyennes à s'organiser, manifester et demander des comptes sans craindre la répression. La criminalisation des manifestantes au Royaume-Uni était une dérive inquiétante. Cette décision marque donc une avancée importante pour la protection de nos droits. Voilà.
Petit rappel, si vous écoutez nos émissions aussi en podcast, on avait parlé dans une émission il y a peut-être un mois ou deux, je ne sais plus, faudra vérifier, effectivement de la répression des manifestations
par rapport à l'écologie.
En Grande-Bretagne, c'était par rapport à l'écologie.
Voilà, mais par rapport à tout, puisque on n'avait pas le droit d'être dans la rue. Si on était dans la rue, on pouvait être considéré comme manifestant potentiel.
Et ça se passait pas dans un pays qui est réputé pour enfreindre des droits fondamentaux, c'était en Grande-Bretagne.
Pour les éco-terroristes, c'est un peu compliqué chez nous, quand même, on va dire ça.
Mais il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne, tout à fait. Donc c'est important, effectivement, que la Cour suprême ait statué, c'est la Cour suprême, c'est ça, je ne sais plus, oui.
Oui, statué, c'est
la... Enfin, la plus haute instance juridique en Grande-Bretagne ait statué dans ce sens-là. Voilà.
Remis les pendules à l'heure aussi.
On voulait revenir sur un pays dont on vous a parlé plusieurs fois ces derniers temps, vu l'actualité, c'est l'Iran.
Voilà, c'est l'Iran. On parlait du sort de Narges Mohammadi. Alors, je vous la situe aussi. Prix Nobel de la paix 2028. A été emprisonné à plus d'une dizaine de reprises pour son combat contre le port obligatoire du voile pour les femmes et la peine de mort. À 53 ans, elle a été de nouveau arrêtée avec d'autres militants à Mashhad, en Iran, le 12 décembre dernier, lorsqu'il faisait un hommage à l'avocat Khosrod Ali Khordi, défenseur iranien des droits humains. Ses proches craignent pour sa santé fragilisée par des crises cardiaques survenues pendant ses détentions. Elle avait été libérée à l'automne dernier. On avait été assez contents. Donc là, et malheureusement, début février 26, les autorités ont condamné finalement Narges à 7 ans et demi de prison. Une nouvelle condamnation qui s'inscrit dans le cadre d'une escalade sans précédent de violence des autorités à l'encontre des récentes mobilisations dans le pays. Moi, ce que je voulais aussi communiquer, donc là, c'est vraiment terrible comme nouvelle, et comment on peut travailler aussi à Amnesty. Ah, donc c'est aussi dans la chronique, en plus de cette nouvelle-là, on n'avait pas encore la nouvelle de sa condamnation à 7 ans et demi de prison, mais depuis 2 ans, il y a des militants d'Amnesty France qui tentent de rallier les villes pour soutenir cet infatigable défenseur des droits humains. Et donc retour sur une mobilisation, donc c'est aussi dans la chronique où il y a un article. Donc on s'imagine, on est à Annecy. Et le maire d'Annecy, François Astor, fait un discours dans l'hôtel de ville et il dit « Ce soir est un moment précieux dans la vie d'une ville. C'est avec émotion que nous remettons la distinction de citoyenneté d'honneur à Narges Mohammadi. » Et à ce moment-là aussi, il y a tout le groupe d'Amnesty qui est à côté de lui, car c'est eux qui ont proposé il y a 2 ans de dédier leur activité de défense à la défense de la journaliste iranienne et d'y associer la ville. Alors au total, il y a 10 groupes locaux d'Amnesty qui se sont mobilisés pour défendre Narges dans le cadre d'une action suivie. Objectif, affirmer le soutien d'Amnesty International à Narges, sensibiliser le public, exercer une pression sur les autorités iraniennes pour obtenir sa libération définitive. Le soir du 5 novembre, donc à Annecy, le mari de Narges, Taghi Rahmani, en France depuis 2012, et son fils Ali sont présents pour la remise de la médaille et du certificat de citoyenne d'honneur. Ali prend la parole. Cette distinction n'est pas un simple bravo, mais un soutien indéfectible. Cela signifie que les citoyens d'Annecy seront avec elle dans son combat. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point votre soutien, lui, est nécessaire. Sans vous, il n'y aurait pas de Narges Mohammadi. Le maire d'Annecy intervient pour exiger la fin des persécutions que vous subissez. Votre famille n'a déjà que trop attendu vos retrouvailles. Des chants iraniens interprétés par le chœur Iran Solidarité Grenoble accompagnent la cérémonie. C'était un moment suspendu, confie Karine, membre du groupe d'Amnesty. Ali m'a dit que c'était la première fois qu'il voyait son père ému, fredonner avec le groupe des chansons de son enfance. Un moment de solidarité essentiel alors que la répression meurtrière des autorités s'intensifie contre la vague contestataire née le 25 décembre dernier. Et là, on ne savait pas encore qu'elle allait être condamnée à 7 ans et demi. Oui, donc, juste un petit point, si jamais vous voyez le film « 7 jours passés », c'est un film inspiré par la vie de Narges Mohammadi. Il est sorti en juillet dernier. C'est un film soutenu par Amnesty et qui exprime aussi la difficulté de son engagement en faveur des femmes, car il exprime ses enfants qui lui disent d'arrêter. Qu'ils doivent rester, qu'elle doit rester en Iran. Donc c'est un film qui amène à démontrer son courage malgré sa vie familiale. Bon, je ne l'ai pas vu, hein, c'est juste le petit mmh, résumé. Oui. Voilà.
Okay. Ben, c'est bien et ça ne peut que nous encourager pour tous ceux qui nous écoutent aussi de le faire. Ça, c'est très simple comme action, mais c'est fondamentalement important d'aller signer les pétitions sur le site d'Amnesty International, amnesty.fr. Dans la rubrique Agir, vous avez la liste des pétitions en cours. N'hésitez pas, que ça concerne effectivement la situation en Iran ou plein d'autres situations. Plus on est nombreux à signer, plus ça fait bouger les choses. Et je vous renvoie à ce que je disais au début pour l'action pour juger les criminels qui ont tué Marielle Franco, effectivement, à Rio, que, effectivement, le poids de presque 1 million de signatures qui a été recueilli par Amnesty a pesé aussi dans la balance. Donc, c'est important. Voilà. Comme il nous reste en quelques minutes, je vais en profiter pour vous lire un petit témoignage que j'avais sous le coude depuis quelques émissions et qui, moi, me tient à cœur. C'est en Afrique et on parle souvent de l'Afrique en termes d'atteinte aux droits humains dans les différents pays d'Afrique et Dieu sait qu'il y en a. Mais là, c'est un point positif. Ce sont des militants africains qui s'engagent pour les droits des femmes, dont des hommes. Donc, j'en avais déjà lu un témoignage il y a quelques temps. Je vais vous lire un deuxième, ce sera très court. Il s'appelle Mohamed Tejan Diallo. Il est ambassadeur des droits humains en Sierra Leone. Il est âgé de 27 ans et il est enseignant et travaille comme bénévole depuis environ 10 ans dans sa communauté. Alors voilà ce qu'il dit. Quand j'allais à l'école, j'ai vu des filles arrêter leur scolarité parce qu'elles étaient forcées de se marier. Les parents mariaient leurs filles. Les parents mariaient leurs filles, voilà, à des pêcheurs car ils avaient de l'argent et de l'influence, même si ces filles étaient brillantes. Ils voyaient que les pêcheurs avaient 2 ou 3 bateaux et ne prenaient en compte que le bénéfice immédiat qu'ils pouvaient en tirer. Tout cela est dû à la pauvreté. À l'époque, j'avais 16 ans. J'avais une amie qui a été victime d'un mariage précoce et cela m'a rendu triste. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire du bénévolat et de défendre cette cause. Dans cette communauté, je suis désormais connu comme l'ambassadeur des droits humains. Aujourd'hui, les mariages précoces ont diminué dans notre communauté. C'est difficile de faire changer les gens. Lorsqu'Amnesty International est arrivé dans notre village, la réaction de la communauté n'a pas été encourageante. Il y a eu beaucoup de confrontations entre les bénévoles et les parents. Mais nous avons réussi à les sensibiliser en leur faisant comprendre que si leurs filles avaient accès à l'éducation, elles allaient acquérir des connaissances et pourraient occuper une meilleure place dans la société. En tant que bénévole, donc c'est toujours le même Mohamed qui parle, en tant que bénévole, nous nous rendons dans les écoles et organisons des sessions éducatives. Nous discutons également avec les leaders religieux musulmans pendant les prières du vendredi. Nous leur expliquons à quel point il est important de permettre aux enfants d'aller à l'école. Le chef de notre ville nous soutient également. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré. C'est un dossier qui est paru sur le site du secrétariat international au mois de décembre. Et qui, alors, il y a plusieurs témoignages d'hommes et aussi de femmes par rapport aux avancées des droits des femmes dans l'ouest de l'Afrique, avec le soutien d'Amnesty International. Et je pense que c'est important aussi de montrer que, parmi toutes les actions qu'on fait au niveau de notre ONG, il y a aussi ça, effectivement, l'éducation dans les campagnes africaines, et qui permet effectivement de faire avancer un tout petit peu les droits humains, mais toutes les petites victoires sont importantes, comme on vous le disait. Voilà. Et donc, on s'approche tout doucement du terme de l'émission.
Peut-être une toute petite critique littéraire.
Vas-y.
Pour rester sur les associations un peu, un essai. Alors bon, j'espère qu'il n'est pas trop compliqué à lire. C'est L'État contre les associations, anatomie d'un tournant autoritaire. C'est écrit par Julien Talpin et Antonio Delfini. La baisse des subventions publiques pour le planning familial de Chalon-sur-Saône, le retrait des financements pour l'atelier populaire d'urbanisme du Vieux-Lille ou pour Télémille Vaches, dissolution par décret du collectif contre l'islamophobie en France. C'est le continuum de la répression qu'analysent les chercheurs Julien Talpin et Antonio Delfini dans L'État contre les associations, anatomie d'un tournant autoritaire. Voilà, donc avec toute, depuis 2015, un tournant répressif, un recours croissant à la dissolution administrative, le contrôle, les lois séparatistes votées en 2021 imposent une signature d'un contrat d'engagement républicain. Voilà, c'est quelque chose dont on a discuté, nous, au niveau Amnesty. Hein. Et donc, je pense que ça, c'est peut-être un peu ardu, mais ça donne une bonne image de ce qui se passe. Et là aussi, il faut être vigilant.
Tu nous rappelles le titre et la maison d'édition.
Alors, L'État contre les associations, anatomie, ça c'est le sous-titre, d'un tournant autoritaire par Julien Talpin et Antonio Delfini. C'est l'édition textuelle et ça coûte 19,90 €.
Oui, c'est pas très cher encore, c'est abordable.
C'est voilà. Peut-être dans les bibliothèques aussi, hein, ça peut être.
Nos actualités locales. Donc, on se retrouve sur l'antenne de Principe Actif le mardi 17 mars à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. On vous rappelle qu'on a des...
Mais avant, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, mais avant, mais attendez, je vais juste continuer sur les émissions pour rester sur le même sujet. Mais attends, on va
en parler. Il y a une date, hein, Dominique.
On rappelle qu'il y a des dizaines de podcasts à réécouter sur le site de Principe Actif, principeactif.net. On vous rappelle aussi notre adresse mail. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. evreux@amnestyfrance.fr. Et donc... Edith, qu'est-ce qui se passe le 8 mars ?
En début de mars, voilà, le 8 mars, la journée...
Pour les droits des femmes.
Voilà, enfin bon, l'une des journées, parce qu'il y en a 364 avant.
Oui, tout à fait.
C'est pas grave.
Tout à fait.
Donc, cette journée, on va participer.
On va participer à un rassemblement qui est organisé par le collectif Nous Toutes du département de l'Eure.
C'est un dimanche.
C'est un dimanche et il y aura des stands. Nous, on y sera avec aussi on va y faire des lectures et ça s'appelle